Europe 1. Vous écoutez Au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Bienvenue dans les interviews du vendredi, je suis Virginie Giraud. Il était une fois dans l'Ouest. De Calamity Jane au Western Spaghetti de Sergio Leone, la conquête de l'Ouest américain fait désormais partie de l'imaginaire collectif du monde entier grâce au cinéma. Mais cette conquête de l'Ouest, avec les espoirs qu'elle a suscités, ses morts nombreux, ses conquêtes, ont contribué à forger les États-Unis et à créer sa spécificité culturelle, sociale et économique. Pour discuter de l'importance de la conquête de l'Ouest dans la construction de l'identité américaine, j'ai le plaisir de recevoir Annick Foucrier, professeur émérite d'histoire de l'Amérique du Nord à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour Annick Foucrier.
Bonjour.
Pour commencer cet entretien, je voudrais revenir sur les États-Unis. Unis qui n'ont pas toujours ressemblé à ce qu'on connaît aujourd'hui. À quoi ressemble ce pays à la fin du XVIIIe siècle, au moment de l'indépendance, géographiquement j'entends ?
Alors, en fait, c'est un tout petit pays. Là, les États-Unis sont immenses, ils vont d'une côte à l'autre. Ce n'est pas du tout le cas, et ça va justement être tout notre échange, de parler de la façon dont ils sont partis de ces 13 colonies devenues 13 États et qui étaient coincés entre la côte atlantique et les Appalaches, et comment finalement ils se sont étendus jusqu'à la côte pacifique. Alors, visuellement, il faut voir qu'on a d'une part la Nouvelle-Angleterre, au nord, avec, vous savez, le Massachusetts, Connecticut, Rhode Island.
Donc la côte est.
Toute la côte est, et on descend comme ça jusqu'à la Géorgie, jusqu'aux Carolines. Et entre eux, eh bien, il y a l'État de New York, il y a la Pennsylvanie. Ce sont simplement ces États, mais qui sont bloqués dans leur avance par une chaîne de montagnes pas très haute. Simplement, elle est difficile à pénétrer. Donc, ils sont bloqués là et ça leur pose problème parce qu'ils ont besoin de terre. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont aussi fait l'indépendance, car l'Angleterre, après la fin de la guerre, a voulu réserver ces territoires qui étaient entre le Mississippi et la montagne des Appalaches. L'Angleterre a voulu les réserver aux tribus indiennes. Donc les colons britanniques étaient profondément mécontents et ça a été une de leurs revendications face justement à l'Angleterre. Donc ça a été une des causes de la guerre d'indépendance et au moment de la guerre d'indépendance, ils récupèrent ce territoire si bien qu'ils vont de la côte atlantique jusqu'au Mississippi.
Et il y a donc une envie d'aller conquérir ces territoires qui se trouvent plus à l'ouest. Et parmi les personnages qui vont le permettre, il y a le troisième président américain, Thomas Jefferson. Vous pouvez nous le présenter, s'il vous plaît ?
Alors Thomas Jefferson, effectivement, le troisième président américain, après George Washington et John Adams, est un personnage absolument extraordinaire. Il est tout à la fois intéressé par la philosophie, la jardinier aussi. Il est inventeur, architecte, et il est toujours intéressé par ces territoires qui sont de l'autre côté des Appalaches. Lui-même n'a jamais franchi les Appalaches. Par contre, il est allé en Europe, il a été représentant des États-Unis de 1785 à 1789. C'est un Virginien, c'est la première colonie, la plus ancienne colonie britannique, et il est intéressé par tout ce qui est la flore, la faune, etc. Donc, lui, très tôt, il s'intéresse à l'Ouest et il essaye de penser à organiser des expéditions qui pourraient permettre de savoir ce qui se passe là-bas.
Donc, il y a une curiosité à l'origine énorme de ce projet. Et d'ailleurs, c'est lui qui va permettre une incroyable expédition. C'est l'expédition Lewis et Clark. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qu'elle cherche, cette exploration ?
Alors, en effet, à un moment absolument extraordinaire de l'histoire des États-Unis, cette expédition dirigée par deux capitaines qui sont eux aussi des Virginiens. Alors, les Virginiens, ce sont les hommes du Sud. C'est Meriwether Lewis et William Clark. Donc, en fait, Jefferson, dès son arrivée au pouvoir en 1801, demande à Meriwether Lewis d'être son secrétaire et donc d'habiter à Washington. Donc, Jefferson avait déjà organisé des expéditions avant, mais à chaque fois, ça avait échoué. D'autant plus qu'il faut bien penser que de l'autre côté du Mississippi, il y a les Espagnols. Donc, Jefferson avait déjà essayé d'organiser une expédition. Il avait demandé aux Espagnols le droit de laisser passer quelques hommes en armes. Les Espagnols avaient absolument refusé. Donc, il continue quand même à organiser l'expédition. Dès 1802, 1803, elle commence à être organisée. Et il apprend vers justement 1802 que, en fait, les Espagnols ne sont plus dominants, enfin ceux qui revendiquaient ce territoire que l'on appelait à ce moment-là la Louisiane et qui est donc à l'ouest du Mississippi jusqu'aux montagnes Rocheuses. Donc lui, sachant que c'est la France, d'une part ça l'inquiète beaucoup parce que la France est une grande puissance à l'époque, plus que l'Espagne. Donc ça risque d'être difficile et en plus la France est installée depuis très longtemps. Mais il envoie justement un émissaire en France pour se renseigner. Et finalement, il continue à organiser son expédition. Et en 1803, il fait acheter la Louisiane, ce territoire, par les États-Unis. Alors ça pose deux problèmes. D'une part, personne ne sait quelle est la taille de ce pays-là.
Donc, mais il n'y a pas vraiment de territoire vierge qui n'appartient à personne. Soit il y a les Français, les Espagnols, les Indiens, il n'y a pas de territoire sans population d'une certaine manière.
Les territoires vierges n'existent que dans l'imagination des Américains. Bien évidemment, il y a d'abord des très nombreuses tribus indiennes. Il y a eu ensuite les puissances européennes qui ont colonisé ce territoire, c'est-à-dire vous avez la vallée du Saint-Laurent et la vallée du Mississippi, ça ce sont les Français, jusqu'en 1763, fin de la guerre de 7 ans. Et vous avez les Espagnols qui remontent du sud et qui dominent l'ensemble du sud-ouest actuel des États-Unis. Et puis vous avez les Russes qui eux-mêmes avancent dans les Aléoutiennes, sur la côte de l'Alaska actuelle et qui descendent jusqu'au nord de San Francisco. Donc effectivement, c'est un jeu diplomatique extrêmement complexe et Thomas Jefferson, en 1803, remporte une grande victoire. C'est d'avoir acheté ce territoire, la Louisiane, à l'ouest du Mississippi, à Napoléon Bonaparte, qui sent la guerre venir avec l'Angleterre, qui donc préfère vendre ce territoire aux États-Unis pour bloquer l'Angleterre plutôt que de risquer que ce territoire soit pris par l'Angleterre.
Et qu'est-ce qu'on s'attend à trouver de l'or, des territoires vierges, justement, vous l'avez dit, mais est-ce qu'on cherche quelque chose en particulier ?
Alors, en fait, il y a tout un imaginaire de cet Ouest qui a été d'abord écrit par les Français, parce que ce sont les premiers à l'avoir exploré. Et les Français en ont fait une sorte de territoire paradisiaque. C'était beaucoup de gibier, avec des terres fertiles. Donc, cet imaginaire a été repris par l'Angleterre lorsque l'Angleterre a saisi une partie de ce territoire qui était la Louisiane de l'Est. Et l'Angleterre a ajouté un certain nombre de rumeurs, qui évidemment maintenant nous semblent un peu farfelues, mais qui à l'époque étaient prises très au sérieux. D'abord, il y a l'idée que le relief de l'Amérique du Nord est symétrique. Comme il y a une chaîne de montagnes à l'est, les Appalaches, ces petites montagnes, il doit y avoir une chaîne de montagnes aussi à l'ouest, une petite montagne aussi qui sera facile à franchir. C'est une idée. Il devait y avoir aussi une énorme montagne de sel.
Quelle originalité!
Oui, voilà. Et enfin, on pensait aussi qu'il y avait des mammouths sur les rives du Missouri.
Ah oui, ils avaient un imaginaire fertile.
Très fertile, mais on avait trouvé quand même des animaux, des fossiles d'animaux très grands, justement près de la Virginie.
Alors dans cette expédition Lewis et Clark, il y a une quarantaine de personnes, mais il y a un personnage qui est très intriguant, c'est une indienne qui s'appelle
Sacagawea.
Voilà, je vous laisse le prononcer, c'est plus sûr. Et alors qui est-elle? Comment se retrouve-t-elle dans cette exploration?
Alors Sacagawea, c'est un personnage qui se révèle extrêmement important. C'est une indienne Shoshone qui a été enlevée par des Idatsa et qui a été vendue à un Canadien français qui s'appelait Toussaint Charbonneau. Et qui avait une autre femme Shoshone aussi. C'est une très jeune fille. Elle accouche d'un petit garçon en février 1805. Et avec son bébé sur le dos, elle va suivre l'expédition. Une expédition qui est très difficile pour les hommes et qu'elle réussit elle aussi à participer. Donc elle joue un rôle très très important parce que pour les tribus indiennes qu'ils vont rencontrer, et c'est un de leurs objectifs principaux, une femme et un enfant dans une expédition veut dire que cette expédition est pacifique. Parce que jamais une troupe d'Indiens ne s'encombrerait d'une femme s'ils sont en guerre. Donc, c'est un symbole très fort. Elle est aussi, c'est une Shoshone, donc elle va servir d'interprète, parce qu'elle y a passé son enfance. Là, elle sert un peu de guide.
Annick Foucrier, alors comment elle se termine cette expédition Lewis et Clark? Elle se termine par une volonté de conquérir, de s'installer sur tout le territoire américain?
Alors d'abord, il faut simplement rappeler que cette expédition, elle part de Saint-Louis, elle remonte le Missouri, elle traverse les montagnes Rocheuses, elle arrive près de actuellement Portland, sur la côte, et ensuite elle fait le chemin inverse. Et cela avec seulement un mort qui est mort de péritonite et ayant rencontré des tribus indiennes qui n'avaient jamais vu, jamais rencontré d'Européens ou d'Euro-Américains. Donc c'est assez extraordinaire. Donc elle va impulser, c'est-à-dire elle donne aux Américains l'envie de pousser justement vers l'Ouest et elle leur ouvre les potentialités de ce territoire.
Donc, au fil de ce début du 19e siècle, les Américains s'installent dans le Grand Ouest, en font toute la conquête et surgit cet imaginaire collectif. Alors, à quoi ça ressemble le Grand Ouest? Parce que nous, on a en tête les westerns avec des personnages hauts en couleur, des femmes très fortes, des hommes brutaux. C'est ça, l'Ouest américain?
C'est ça, un peu, et beaucoup d'autres choses. C'est d'abord le chemin de fer. Hein. En 1862, moment de la guerre de sécession, les États du Nord font construire un chemin de fer pour relier le Mississippi, Oklahoma, à la côte pacifique, de façon à ce que la Californie, qui a été elle-même acquise après la guerre contre le Mexique en 1848, et qui a été peuplée grâce à la ruée vers l'or, et là aussi c'est dans l'imaginaire, c'est extrêmement important, donc, de façon à ce qu'elle ne soit pas séparée du reste des États-Unis. Il faut quand même imaginer que ce sont de très, très grandes distances. Donc, le chemin de fer joue un rôle très important. Auparavant, pour les communications, on avait par exemple le Pony Express, hein, qui était un cavalier qui transportait des courriers à cheval avec des relais. C'était quand même très, très long. Donc, quelles sont les images? C'est d'abord les paysages. Paysages immenses. D'une part, les grandes plaines, qui sont complètement vides. D'autre part, les montagnes rocheuses, avec des spectacles fantastiques. Vous avez par exemple Yosemite, vous avez Yellowstone. Elles sont considérées par les Américains comme des sortes de cathédrales des États-Unis. L'Europe a ses cathédrales, les États-Unis ont les paysages naturels magnifiques. Donc c'est d'abord ça. Ce sont aussi des animaux. Et il y a une grande variété d'animaux, il y a beaucoup, alors les bisons finissent par disparaître, mais on chasse aussi des fourrures pendant un certain temps. Et puis il y a des habitants, les premiers les Amérindiens, qui sont malheureusement assez rapidement victimes de cette avancée justement de la, entre guillemets, civilisation, et qui subissent des guerres, des massacres. Et puis ceux qui arrivent, et là, effectivement, tout est à construire. Pas complètement, puisqu'en Californie, il y avait déjà un État et des institutions. Mais dans le reste, ce sont beaucoup d'agriculteurs, d'éleveurs qui arrivent. Alors là, on retrouve les cow-boys qui sont simplement des garçons vachés et qui conduisent les troupeaux vers les gares du chemin de fer qui vont ensuite les acheminer, en particulier vers Chicago, où les abattoirs vont se charger de les transformer en nourriture.
Alors, il y a un concept qui apparaît à la fin du 19e siècle sous la plume de l'historien Frederick Jackson Turner. C'est le concept de frontière. Qu'est-ce qui signifie à ce moment-là pour les Américains?
Alors, effectivement, Frederick Jackson Turner était un historien et c'est en 1893, au moment de la grande exposition universelle à Chicago, qui célèbre donc l'arrivée de Christophe Colomb, il élabore une théorie, c'est-à-dire que lui-même a été formé par ses professeurs avec l'idée que la démocratie américaine, les institutions américaines, étaient un héritage anglais et que cet héritage lui-même venait de la démocratie germanique, qui était le prolongement de la démocratie grecque, donc avec une avancée vers l'Ouest de ces institutions-là, les États-Unis en étant les héritiers. Donc lui, il renverse complètement cette perspective en développant une théorie selon laquelle c'est dans ces espaces sauvages, naturels de l'Ouest américain que s'élabore la démocratie américaine à travers justement ces hommes et ces femmes qui, se confrontant à la nature, ont transformé leurs origines européennes pour devenir des Américains avec toutes les caractéristiques de la population américaine, la mobilité, l'adaptabilité, le nationalisme. Donc c'est ça sa théorie. Alors elle a été critiquée, bien sûr, toutes les théories le sont, mais ça reste un moment important quand même de l'histoire de l'Ouest. La nouvelle histoire de l'Ouest lui reproche de ne pas parler assez des femmes, des minorités ethniques, etc. Mais c'est quand même une étape importante.
On voit que les États-Unis sont un pays tout neuf à côté de la vieille Europe et pour faire nation, il faut se raconter une histoire commune qui fédère. Et cette histoire commune, elle va se fabriquer autour du mythe de la conquête de l'Ouest, c'est bien ça ?
Oui, à travers d'une part d'abord des tableaux, des peintures. Vous avez les peintures de Carl Bodmer dans les années 1830, des peintures d'Indiens justement sur le Missouri. Les peintures d'Indiens aussi de George Catlin. Vous avez aussi les Indiens, les pionniers et les cow-boys de Frederick Remington. Alors là, on est dans les années 1880. Puis vous avez d'autres tableaux, comme il y a un tableau particulièrement intéressant qui est sur l'avancée vers l'Ouest, qui date de 1872, où vous avez une femme avec ses voiles qui avance et qui est un peu en hauteur. Et puis derrière elle arrive la civilisation, les agriculteurs, le télégraphe, les chemins de fer un peu plus loin, et elle repousse devant elle, dans les ténèbres, les Indiens et les animaux sauvages. Donc c'est extrêmement symbolique. Et c'est comme ça que se représente, avant même, bien sûr, Hollywood, qui reprend tout cela pour en faire une attraction, un spectacle, mais qui s'inspire d'ailleurs beaucoup, justement, des tableaux de Remington avec les Indiens, avec les coiffes, plumes, ce qui ne portait que dans les moments de cérémonie. C'est-à-dire qu'il y a une recréation, et en particulier quand justement l'industrie du cinéma s'installe à Hollywood, parce que là c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir filmer pendant toute l'année.
Bien
alors
sûr.
Qu'à New York, c'est un peu difficile, il faut filmer en studio pendant une bonne partie de l'année à cause du climat. Eh bien, justement, les metteurs en scène, qui souvent sont en opposition avec l'Est, se réinventent un mythe, mais plus tard, il y a une revalorisation justement des personnages qui étaient auparavant très minoritaires.
Et bien justement, à partir des années 80, disons une grosse quarantaine d'années, on commence à remettre en question ce mythe national de la conquête de l'Ouest qui commence à se fissurer, on met en avant d'autres personnages. Comment on change finalement un mythe national ? Comment on le fait évoluer ?
Par la culture, d'une part, par les travaux qui sont réalisés par des historiens, des sociologues, des géographes. Donc là, ça permet, par exemple, de remettre en valeur justement ceux dont Turner ne parlait pas, les hispaniques, hein, par exemple les Mexicains, les Indiens, ils en parlaient, mais d'une façon qui était comme les vaincus, alors que c'est beaucoup plus intéressant que cela. Et puis les femmes, et puis même les Afro-Américains. Donc, ceux qui étaient les oubliés de l'histoire tiennent à ce moment-là la revanche. Alors, parfois, on va peut-être un petit peu loin, mais c'est une remise en cause et c'est ce qui fait aussi la richesse de l'histoire.
Et bien, c'est ça qui est formidable, c'est que l'histoire est en mouvement perpétuel. Merci, Annick Foucrier.
Merci
on
à vous.
On comprend beaucoup mieux comment s'est forgée l'histoire de l'Ouest américain grâce à vous. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre sur le sujet, À travers l'Ouest nord-américain, l'expédition d'exploration dirigée par Meriwether Lewis et William Clark, 1803-1806, aux éditions de La Lanterne Magique. Merci à tous nos auditeurs qui nous sont fidèles. Si vous avez aimé cette émission, eh bien faites comme pour les shérifs, mettez-nous des étoiles. Je rappelle qu'Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Nathan Laporte et Caroline Garnier. À la réalisation, Julien Tarot, ainsi qu'à la direction artistique, à la communication et à la diffusion, Marie Corpet et Nathan Laporte. Et moi, je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre plateforme favorite et sur l'application d'Europe 1. Et aussi chaque week-end à 15h sur les ondes de notre belle station. À bientôt.